Alors bonjour à tous.
Bonjour.
Ce matin, les Navez sont partis voir leur fille et leur beau-fils qui ont monté un spectacle et on prie pour eux que tout se passe bien. On est très content pour eux. Et on a notre culte ce matin. Je vais vous faire une lecture dans Jean, chapitre 16, verset 33. Jean 16. Non, c'est pas... Oui. Oui, c'est ça. C'était un verset que ma mère m'avait écrit dans ma toute première Bible de pasteur. C'était une Bible que j'ai dû faire relier parce qu'elle tombait en douve. C'était en 60... quand je sortais de l'école biblique, en 60, je sais plus combien. Il fallait que je vous dise aussi cela, c'est Jésus qui dit... Il fallait aussi que je vous dise cela pour que vous trouviez la paix dans la communion avec moi. Dans le monde, vous aurez à souffrir bien des afflictions, mais prenez courage. Moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Amen. Que Dieu bénisse sa parole aujourd'hui. Dans ce monde, nous aurons des tribulations. Je pense que vous savez que c'est vrai. Vous savez que vous en avez personnellement, dans les familles, dans les églises, dans les villages, dans les communes, dans les pays, dans le monde, des tribulations. Et Jésus ne nous le cache pas, mais il nous dit aussi, prenez courage, moi j'ai déjà vaincu le monde. Il nous faut nous consacrer. Nous qui sommes chrétiens, nous avons fait des alliances avec Dieu. Nous avons promis à Dieu de le suivre quand nous sommes descendus dans les eaux du baptême et nous renouvelons ces alliances en prenant son corps et son sang, ce qu'on appelle la Sainte Cène. On renouvelle nos alliances à ce moment-là en disant « Seigneur, nous nous engageons à communier toujours avec toi et avec les uns et avec les autres des tiens ». Et cela jusqu'à ton retour, on annonce le retour de Jésus, on sait, c'est notre grande espérance. Dans ce monde impie, il y a une tendance à penser que le monde peut offrir des consolations et des évasions aux problèmes. Pourquoi est-ce que le monde, pourquoi l'esprit qui dirige le monde ferait ça? Je vais vous dire une chose terrible. Le monde est le lieu où le choix des illusions semble être le seul choix. Il peut vous donner des petites joies artificielles qui durent quelques instants, puis après c'est plouf. Le monde veut que tu crois que c'est toi qui contrôles les conséquences de tes choix. Et je vous pose la question, est-ce que vous êtes de ceux qui croient que, à l'intérieur de cette mince tranche qui va de votre naissance à votre mort, un peu de temps vous est donné pour que vous puissiez l'utiliser vous seul? Il faut y réfléchir. Un temps pendant lequel chacun est en conflit avec ceci ou avec cela, mais que tu peux choisir quel chemin te fera sortir de ce ou ces conflits. Est-ce que vous êtes parti de cette sorte de personne-là? Est-ce que vous croyez que vous avez le pouvoir de choisir une chose ou une autre qui vous mènera loin des difficultés de celles qui vous concernent et de celles qui ne vous concernent pas, enfin du moins que vous pensez que ça ne vous concerne pas. Mon frère, ma soeur, tu es concerné par tout ça, parce que tu es dans ce monde et connaissez l'histoire du papillon. Tu peux t'échapper des réalités, tu ne peux pas t'échapper des réalités de ce monde en laissant derrière toi ce qui de toute façon te colle aux semelles Il y a des gens qui voyagent en pensant que ça ira mieux, puis quand ils arrivent à l'autre bout du monde, ben, ça va pas mieux parce que ils trimballent leur problème, c'est leur problème. Alors tu me diras, oui, mais mes choix sont réels, je fais des choix réels. Écoute bien ça, le monde n'a pas de choix à t'offrir. C'est une illusion que le diable fait croire aux gens. Toutes les routes que le monde ouvre devant vous ne mènent qu'au désappointement, au néant et finalement à la mort. Voilà. Depuis que l'humanité a élu Satan, prince de ce monde, eh bien c'est comme ça, le monde tourne de façon que les problèmes sont sans issue. Il y en a un qui semble se régler, puis il y en a un autre qui arrive tout de suite derrière, vous avez vu ça, hein? Vous réglez un problème, ça crée une conséquence qui est un nouveau problème, vous avez remarqué ça, hein? Les chrétiens m'écrivent souvent, avec bon cœur, avec une bonne volonté, de prier pour la paix dans le monde. Je ne prie jamais pour la paix dans le monde, parce qu'il n'y aura jamais la paix dans le monde. Vous allez me dire, ah bon? Mais même avec toutes les prières de tous les chrétiens qui pourraient prier, jeûner, pour qu'il y ait la paix dans le monde, il n'y aura pas la paix dans le monde. Dieu nous dit que le monde est voué à la destruction et au feu. Puis vous, vous voulez qu'il y ait la paix dans le monde? Mais ça ne tient pas debout, ça ne se peut pas. 2 Pierre 3, 3, 7, je vous lis. 2 Pierre 3, 3, 7. Sachez tout d'abord, c'est donc parole de Dieu, hein, sachez tout d'abord que dans les derniers temps, des moqueurs viendront. Ah bon? Ils sont où? Oh ben, si vous en connaissez pas, moi j'en connais, hein. Sachez tout d'abord que dans les derniers temps, des moqueurs viendront, des hommes vivant au gré de leur passion. Ils vous tourneront en ridicule, disant, eh bien, cet avènement promis, le retour de Jésus qui est promis, où est-ce qu'il est? C'est pour quand? Nos pères sont morts et tout continue son cours, depuis que le monde est monde, il n'y a rien qui a changé. Ceux qui raisonnent ainsi sont de mauvaise foi. En effet, ils font semblant d'ignorer qu'autrefois Dieu a parlé pour appeler les cieux et la terre à l'existence. La terre émergea de l'eau et l'eau est son élément principal. Mais un jour, par l'eau, à l'appel de cette même parole de Dieu, le monde d'alors fut détruit, englouti par les eaux du déluge. Ils font semblant d'ignorer, ils ne veulent pas croire que c'est vrai, c'est une légende, je ne sais pas quoi. Quant à la terre et aux cieux actuels, ils sont gardés par cette même parole divine et réservés pour être détruits par le feu qui s'allumera le jour du jugement. Ce même jour, les méchants périront. Eh bien, Michel, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce que tu nous dis là? Il ne faut plus prier pour la paix dans le monde? Non. Il faut prier pour que ça se grouille, que ça se dépêche d'arriver, puis qu'on n'en parle plus, que ça soit fini, qu'il y ait un nouveau ciel, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, plus de diables, plus de méchants, plus de... Oui, voilà. On peut prier aussi pour que les enfants de Dieu soient protégés, ça oui, mais qu'il y ait la paix dans le monde, ça n'existe pas. Il nous donne des indications, des indices, par des prophéties dans la Bible pour nous dire, voilà, quand vous verrez ça arriver, sachez qu'il y a ça qui va arriver. On ne peut pas y échapper. Ça finira mal pour le monde. Dieu le dit. Alors, c'est pas possible qu'on change les idées de Dieu. Vous croyez qu'en priant, Dieu va se dire, ah ben oui, je dis ça parce que c'est un jour, j'avais mal aux pieds, j'étais un peu fatigué, puis j'étais énervé, et puis bon, ben finalement, non, j'ai changé d'idée. Non. Les hommes qui ont vieilli en croyant toujours que des choix pourraient être faits en vue de la paix, je ne dis pas que c'est mal de faire des tables rondes pour discuter en vue de la paix, je ne dis pas que c'est mal, mais ces hommes, la plupart sont morts, d'autres vont mourir un jour, et ça n'aura rien changé du tout. Le monde n'offre pas la paix. Alors ma question, c'est pourquoi chercherais-tu à essayer une autre route, une autre personne, un autre lieu, quand tu as lu la Bible et que tu as appris ce qu'elle dit? Ton problème, c'est que tu n'as pas compris à quoi sert la Bible. La Bible sert à t'informer au sujet de ce que Dieu veut. La Bible est la réponse à la quête que doivent entreprendre tous ceux qui croient encore qu'il y a une autre réponse à trouver. Alors, ne sois pas désespéré, mais ne cherche pas non plus d'espoir là où il n'y en a pas. Ça sert à rien. Ça sert à rien. En cherchant des réponses à tes problèmes ailleurs que dans la Bible, tu ne fais que de perdre du temps et tu fais perdre du temps aux autres et puis tu ne fais que de créer encore plus de confusion. Il faut que tu me crois, que tu crois que ce que je te dis est sérieux, parce que c'est quand on comprend que le monde n'offre pas de choix pour la paix qu'on atteint le point le plus bas, quand on comprend ça. Et de ce point le plus bas, de cet apprentissage, tu vas pouvoir aller jusqu'à des sommets de bonheur parfaitement adaptés à ta capacité d'apprendre. Parce qu'il y a une réalité à ne pas négliger, on en parlait avec les frères et sœurs dernièrement, on ne peut pas mettre 3 litres d'eau dans une bouteille d'un litre et demi. Tu as une certaine capacité d'apprendre, utilise-la, mets dans ce contenant qui est le tien, ce qu'il faut, ce qui est bon et non pas du n'importe quoi. On a tous plus ou moins une certaine capacité d'apprendre. Veux-tu apprendre? Dans le texte que nous avons lu, Jésus dit « Vous aurez à souffrir bien des afflictions dans ce monde, mais prenez courage ». C'est le seul choix que nous avons à faire, celui de prendre courage. Ok, mais où est-ce qu'on le prend? Il est où? Rappelez-vous, les disciples étaient abattus. Jésus était mort. Lui en qui ils avaient placé toute leur espérance. Ils n'avaient pas compris tout ce qu'il disait, mais quand même, c'était pour eux un choc terrible. Ils étaient dans le désespoir, ils s'étaient tous cachés, réfugiés dans une maison, ils parlaient de ça, et soudain, Jésus se trouve au milieu d'eux. Alors, on va lire ce qui s'est passé dans Luc, chapitre 24, verset 36, Luc 24. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, tout à coup, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Puis il a vu leur tronche, alors il a rajouté « N'ayez pas peur, c'est moi ». Mais ils furent saisis de stupeur et d'effroi, croyant voir un fantôme. « Comment pouvez-vous être bouleversé à ce point ?» leur dit-il. « Pourquoi ces doutes envahissent-ils vos cœurs ?» Regardez mes mains et mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez. En effet, un fantôme n'a ni chair ni os. Et comme vous le voyez, moi, je suis bien là en chair et en os. Après avoir ainsi parlé, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils hésitaient encore à croire et ils restaient là, ébahis, incrédules. Alors il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ici ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson rôti sur le grill et un gâteau de miel. Il les prit en main et les mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, « Voici réalisé ce que je vous ai souvent annoncé quand j'étais encore parmi vous, je vous le disais. Il faut que ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, reçoive son accomplissement. » Et là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, il est écrit clairement que le Messie doit souffrir, mais qu'il ressuscitera des morts 3 jours après. Il est aussi dit qu'on annoncera de sa part à tous les hommes qu'ils doivent se repentir, se convertir pour obtenir le pardon des péchés. Et ce message sera proclamé à tous les peuples en commençant par Jérusalem. Et c'est vous qui rendrez témoignage de ça. Quant à moi, je vous enverrai bientôt le don que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance céleste. Pourquoi je fais cette longue lecture ? Pour vous dire où se trouve le courage que vous devez prendre. Je me rappelle toujours, il y en avait une sœur en Suisse qui disait toujours « Faut prendre la victoire. Faut prendre la victoire. » Là, moi, je vous dis « Faut prendre courage. » Jésus dit « Prenez courage. » Eh bien, le courage, il se prend dans la communion avec Jésus le ressuscité. Dans la communion avec lui. Eux, vous allez me dire, ils ont vu Jésus ressuscité. Et si vous connaissiez la Bible, vous connaîtriez Jean 20, 29, où Jésus dit « Heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. » Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont jamais vu Jésus et qui ont cru, parce que c'est une révélation. Vous n'avez pas besoin de voir Jésus, ni même de croire qu'il est avec vous. Car ce qui donne du courage, c'est de savoir qu'il est avec vous. Mais comment est-ce que je peux le savoir ? Parce qu'il l'a promis, Matthieu 28, 20, il dit « Soyez-en persuadés, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » C'est Jésus qui le dit. C'est pas un menteur, c'est pas un religieux qui manipule son monde. Alors un jour, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie, chemin, vérité, vie. Alors même si vous avez péché, même si vous vous êtes détourné du bon chemin, que vous avez été chrétien, puis vous êtes rétrograde, vous avez abandonné, vous êtes... Il est avec vous. Parce qu'entre lui et vous, c'est une histoire d'amour. Il vous aime, tel que vous êtes, et vous pouvez toujours revenir. Il ne va pas vous rejeter. Le monde ne vous donne pas de choix vrai. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. Le monde ne vous donne pas de choix vrai qui mène à la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Jésus est le seul qui vous donne le choix vrai, et ce choix c'est prenez courage. Et il dit, moi j'ai déjà vaincu le monde. Ça pour l'avoir vaincu, ils l'ont tué, il est mort, ils l'ont enterré, 3 jours après il est ressuscité, et maintenant il y a des millions de chrétiens partout, et de plus en plus. Quand vous faites le choix de prendre courage, parce que vous savez que Jésus est avec vous, vous savez que vous êtes avec celui qui a déjà vaincu le monde. Vous êtes avec le vainqueur. Prenez l'habitude de vous reposer sur lui. Vous êtes avec lui, vous n'avez rien à craindre, il a déjà vaincu le monde. Et vos problèmes, vos difficultés, il sait comment les vaincre. Il va vous inspirer, il va mettre les situations de façon à ce que les choses s'arrangent. Remplissez votre cœur avec ses paroles. C'est le seul chemin vrai qui mène à la vie. Et tout d'un coup, vous allez voir que les choses vont s'arranger. Les gens méchants vont changer d'attitude envers vous. J'ai même dit que les méchants... Ils travaillent, puis que c'est les enfants de Dieu qui récoltent les fruits. C'est rigolo. Et puis, il vous viendra des bonnes idées. Et puis, vous saurez comment changer votre situation tout d'un coup. Ah, mais oui, voilà, parce que vous aurez été en communion avec Dieu, alors votre esprit sera ouvert et il va pouvoir capter des idées, des pensées de Dieu. Pour changer des trucs qui ne vont pas peut-être dans votre couple ou dans votre profession. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un, une personne qui va vous aider, qui va vous dire, voilà, il y a ci, il y a ça. Enfin, quelque chose va vous arriver, des choses formidables vont vous arriver à vous, pas au monde. Jésus dit, je suis avec vous, il le dit aux siens, il ne le dit pas à tout le monde. C'est pas à tout le monde, Jésus n'est pas avec tout le monde. Il est avec ceux qui sont avec lui. Ça a l'air méchant de dire ça, mais c'est comme ça. Vous savez, Jésus est très au courant de ce qui se passe dans ce monde. Il n'a pas besoin de regarder les informations pour être au courant. Il sait déjà longtemps en avance. Hein. Il a annoncé, c'est écrit. Il a prophétisé. Et il a pris une résolution. Ce monde sera détruit par le feu. On pourrait même dire que l'humanité n'a plus besoin de Dieu pour détruire le monde. Il peut se détruire tout seul par le feu. Il suffit qu'il y ait un fou qui appuie sur le bouton, un autre qui riposte, et puis c'est le feu partout. Mais c'est pas comme ça que ça va se passer. Bien sûr, il peut se passer ça aussi, mais Dieu est très capable de détruire le monde par le feu comme il a détruit par l'eau. C'est-à-dire de façon tout à fait subite, inattendue et sans la main de l'homme. Il y a deux sortes de personnes ici-bas. Il y a les siens et puis il y a les autres. Voilà, c'est ça, il faut se dire. Il y a les siens et puis il y a les autres. Ça a toujours été comme ça. Lisez l'histoire de Moïse à qui Dieu dit « Va vers Pharaon » et dis-lui « Laisse aller mon peuple ». Alors Moïse prend son courage à deux mains et puis il va vers Pharaon. Pharaon, c'était le roi de l'époque, hein, Et puis il se prenait pour Dieu, attention, hein, c'était pas un rigolo qu'on approchait comme ça, mais Moïse avait plus ou moins fait partie de la famille, donc bon, il avait quand même un peu le courage d'y aller. Et puis, il a dit, laisse aller mon peuple. Et vous savez ce que Dieu fait par derrière? Il endurcit le cœur de Pharaon. On trouve ça dans Exode 9, 12. Mais pourquoi Dieu s'amuse à faire ça? Parce que Pharaon, se croyant divin, Dieu lui démontre que c'est faux. T'es rien, mon pauvre petit Pharaon, avec ta petite barbichette en or, t'es rien du tout. Ce que Dieu a fait, il a endurci le cœur de Pharaon afin de montrer sa gloire au peuple d'Israël, afin que cette sortie d'Égypte ne soit pas simplement un compromis d'hommes politiques qui ont discuté autour d'une table ronde, carrée ou ovale, mais par des miracles, des prodiges que tout le monde a pu voir. Quand il a endurci le cœur de Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Ben, il a juste un peu poussé pour que ça aille plus vite. Vous allez me dire, mais c'est terrible ce que tu nous dis là. Ah oui, 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 c'est vrai, c'est terrible. La Bible nous enseigne que la terre souffre les douleurs de l'enfantement. On va lire ça dans Jean 16, 21. Jean 16, 21. Lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, ça m'est jamais arrivé, hein, mais il paraît que c'est vrai. Lorsqu'une femme est sur le point d'accoucher, elle est angoissée parce que le moment de souffrir est venu pour elle, mais à peine a-t-elle donné jour au bébé qu'elle a déjà oublié son angoisse et ses souffrances parce qu'elle a mis au monde un être humain. Vous, de même, vous êtes maintenant dans l'angoisse et la tristesse, mais je reviendrai vous voir, alors votre cœur sera rempli de joie et ce bonheur, personne ne pourra vous l'enlever. Le monde est pris dans les douleurs de l'enfantement. C'est pas pour rien qu'il dit ça, Jésus. Vous savez comment c'est, surtout vous les dames. Il y a des contractions. Il paraît que c'est terrible. Puis après, les contractions, elles deviennent de plus en plus rapprochées les unes des autres. Et de plus en plus fortes, c'est vrai, hein, chérie? Alors, je suis bien content d'être un homme. ça doit être terrible. Voilà ce qui est dit dans Jean 16, 21. le monde, il est en train d'accoucher de quelque chose. Quelque chose va arriver. Qu'est-ce que c'est qui va arriver? Ce qui va arriver, c'est l'apparition de Jésus, le Fils de Dieu, qui va apparaître dans les nuées du ciel. Tout œil le verra, tout genou fléchira devant lui, et tout le monde, et les impies pleureront. Là, il y a un bonhomme qui m'écrit, mais il est déjà là, il est en train de nous observer. J'ai dit, c'est faux, c'est pas vrai, vous êtes séduit par un esprit de mensonge. Jésus n'est pas là, il n'est pas encore venu. Il a dit comment il ferait pour revenir. Les anges, quand Jésus est monté au ciel, les anges ont dit, de la même manière que vous l'avez vu partir, vous le verrez revenir sur les nuées du ciel. Et il y en a qui nous racontent qu'ils sont Jésus, et ils se baladent à gauche, à droite, en disant, je suis Jésus. Vous avez plein les hôpitaux psychiatriques de gens qui se prennent pour Jésus, pour Napoléon, pour... Hein? Quand vous regardez les infos, il y a de quoi être angoissé. Et il semble que les situations s'empirent et les déclarations sont de plus en plus meurtrières. Ça peut angoisser, mais ne cédez pas à l'angoisse, nous dit la Bible. L'angoisse, c'est le chemin du monde qui fait prendre des décisions qui... Vous avez vu ce qui se passe avec l'Ukraine, la Russie, tout ça, c'est des histoires très vieilles, très vieilles. Si vous étudiez l'histoire, c'est très vieux. C'est des vieilles histoires d'arrangements, de guerres, de pertes, de gains, de morts, d'horreurs. Vous disiez, mais c'est très vieux. Et ça ne s'arrangera pas. Ça ne s'est pas arrangé jusqu'à maintenant, ça ne s'arrangera pas encore. C'est comme ça. C'est le chemin de ce monde. Nous, nous attendons le retour de Jésus. Et là, les impies qui seront restés vivants et qui se moquent de nous, ben, ils pleureront et ils seront dans l'effroi parce qu'ils diront « Ah, mais alors c'est tout vrai ?» Oui, un petit peu comme les musulmans qui croient que quand ils assassinent les gens, ils vont aller au paradis puis qu'ils auront des vierges à se taper. Puis d'un coup, ils s'aperçoivent qu'ils sont en enfer. Ah, alors les chrétiens disaient que c'était vrai? Ben oui, c'est ballot, hein. Ben vous savez quoi? Tant pis pour eux. Vous allez me dire, mais Michel, tu es dur. Non. Ça fait assez longtemps qu'on les avertit. Ils se moquent de nous, ils se moquent de notre message, ils se moquent de Dieu. Vous savez, quand l'arche de Noé s'est mise à flotter parce que l'eau du déluge montait, Noé, il n'a pas versé une seule larme sur ceux qui hurlaient de terreur en s'agrippant sur les bords de l'arche ou sur des rochers qui étaient un peu plus élevés, en disant « Au secours, Noé, aie pitié !» La Bible nous dit que Noé, toute sa vie, il a été un prédicateur de justice, il avait annoncé le déluge, tout le monde se foutait de lui, et puis, mais voilà, ben maintenant, Noé, il n'a pas versé une larme, il a fait ce qui était essentiel, donner à bouffer aux vaches. Ça paraît énorme, mais il s'est occupé de ça. Il s'est occupé de ce qui était essentiel. Les autres avaient fait leur choix, ben voilà, tant pis pour eux. Ils me diront, mais Michel, c'est dur. Non, c'est pas dur. Quand la mer Rouge s'est refermée sur l'armée égyptienne, Moïse n'a pas versé une larme sur ces pauvres gens qui, finalement, bon, quoi, ils avaient fait que de suivre les ordres du fou furieux, là, du pharaon, ils y étaient pour rien, puis voilà qu'ils sont morts dans la mer, oh, c'est bien triste, est-ce que c'est juste, Dieu est dur? Non, il n'a pas versé une larme, il a dit, bon, ils ont chanté un cantique, ils ont tourné le dos à la mer, ils sont partis, en direction de la terre promise, oui ou non? Quand la terre s'est ouverte pour engloutir ceux qui ne voulaient pas suivre Dieu et Moïse, on va le lire, tiens. Et voilà, c'est terrible. Nombre 16, 33. On va lire à partir du verset 28. Voilà ce qui est dit. Moïse dit, « À ceci vous connaîtrez que l'Éternel m'a envoyé pour faire toutes ces choses et que je n'agis pas de moi-même. » C'était juste après, vous savez, que Moïse soit descendu avec les lois, les tables de la loi, et puis les gens avaient fait le veau d'or, et puis ils se vautraient dans la luxure, et voilà, tout ça. Il dit, ceux qui sont avec moi, vous mettez de ce côté, ceux qui sont contre moi, vous mettez de ce côté. Il dit, si ces gens meurent comme tous les hommes meurent, S'ils subissent le sort commun à tous les hommes, ce n'est pas l'Éternel qui m'a envoyé. Mais si l'Éternel fait une chose inouïe, si la terre ouvre sa bouche pour les engloutir avec tout ce qui leur appartient et qu'ils descendent vivants dans le séjour des morts, vous saurez alors que ces gens ont méprisé l'Éternel. Comme il achevait de prononcer toutes ces paroles, la terre qui était sous eux se fendit, la terre ouvrit sa bouche et les engloutit, eux et leurs maisons, avec tous les gens de Corée et tous leurs biens. Ils descendirent vivants dans le séjour des morts, eux et tout ce qui leur appartenait. La terre les recouvrit et ils disparurent du milieu de l'assemblée. Tout Israël qui était autour d'eux s'enfuit à leurs cris, car ils disaient « Fuyons de peur que la terre ne nous engloutisse ». En plus, un feu sortit d'auprès de l'Éternel et consuma les 250 hommes qui offraient le parfum au veau d'or machin là. Mais quelle horreur! C'est pas possible! Mais Moïse n'a pas pensé « Oh là là, quand même, Dieu est dur !» Non. Dieu ne fait jamais rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Amos, chapitre 3, verset 7. Dieu ne fait jamais rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Pourquoi est-ce que Dieu avertit ses prophètes? Eh bien, pour que ses prophètes avertissent le peuple. Et les prophètes, d'autrefois, ont consigné ce qui devait arriver à notre génération dans la Bible. Il n'y a pas moyen d'y échapper, sinon par la repentance. Si vous vous repentez, vous pouvez échapper à toutes ces horreurs. Mais si vous ne vous repentez pas, si ça vous fait rigoler, si vous n'y croyez pas, ben vous ne pourrez pas y échapper, puis on ne va pas pleurer. Et les prophètes vivants parlent encore et encore et encore et encore. Et que fait le peuple? Ben, ils n'écoutent pas, ou ils se moquent, ou ils pinaillent sur des points de doctrine.
Oui, mais moi, à mon avis, je pense que...
Oui, mais la Bible dit...
Oui, mais vous savez, la Bible, elle a été trafiquée. Moi, à mon avis, je pense que...
Bon, pense ce que tu veux, bref. En fait, ont-ils le choix de faire autre chose que ce qu'ils font? Ça, c'est la grande question. Dieu connaît les siens, la Bible nous dit. Ce sont ceux qui se sont repentis et qui vivent selon ce que le Seigneur a voulu qu'il soit écrit dans la Bible. Voilà qui sont les siens. Ça fait très peu de monde, très peu de monde. Jésus lui-même a dit, on trouve ça dans Luc 18, 8, « Trouverai-je la foi quand je reviendrai sur la terre ?» Il ne se pose pas la question parce qu'il ne connaît pas la réponse. Il pose la question afin que vous, vous posiez la question. Suis-je sur le chemin? Suis-je dans la vérité qui mène à la vie éternelle? Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin. C'est vrai que les nouvelles sont angoissantes. C'est vrai que d'un moment à l'autre, on peut entendre dire qu'il y a une bombe atomique qui a explosé à New York, à Paris, à Rome, n'importe où. Oh, c'est vrai que toutes ces choses-là tout le monde en parle, on en parle partout. C'est vrai que beaucoup de monde est dans l'angoisse. Mais vous, faites le seul choix valable. Fortifiez-vous. N'ayez pas peur. Mettez-vous en communion avec Dieu. Mettez-vous du côté du Seigneur en faisant ce qu'il dit, en croyant ce qu'il dit, en ne faisant pas des sentiments, mais en étant des gens fermes dans ce qu'ils croient, c'est-à-dire qu'ils vivent ce qu'ils croient. Au nom de Jésus, mon Dieu. Amen. Au revoir.